Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Sacco qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Mais avant cela, on va parler d'un goût qui réconforte et qui rappelle des saveurs d'enfance glissées dans un flan, une crème ou une glace, comme le dit le chef Olivier Rollinger.
La gamme des vanilles est très étendue. Les gens n'imaginent pas, ils pensent que c'est toujours cette gousse noire, mais c'est un petit peu comme il y a encore 20 ans, on pensait qu'il y avait de l'huile d'olive, et aujourd'hui chacun a du goût bien particulier sur l'huile d'olive, sur un café, sur un chocolat, sur un cru, et les vanilles, mais quelle qu'elle soit, la vanille nous porte à l'enfance et nous porte à une dimension très, aussi très maternelle. La vanille, c'est la caresse d'une mère, en réalité, on redevient tous enfants, quoi.
Une caresse qui est néanmoins bien plus qu'une douceur familière. C'est une orchidée fragile, une liane capricieuse qu'il faut féconder à la main. Une épice voyageuse née au Mexique et devenue trésor à Madagascar, aux Comores, à La Réunion. Derrière chaque gousse, il y a des gestes précis, un séchage patient, des mois d'affinage et aujourd'hui des enjeux économiques et climatiques immenses. Pourquoi cette merveille est-elle l'une des épices les plus chères au monde alors qu'elle est l'une des plus populaires? Comment la choisir et la cuisiner sans excès? Nous mettons la vanille dans le panier des bonnes choses ce midi avec comme invité depuis La Réunion un ingénieur agronome, fin connaisseur de la vanille sous toutes ses dimensions, fondateur en 2009 de la Vanilleraie, Bertrand Combe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez la chance, vous, d'avoir 30 degrés et un grand soleil, ce qui nous fait beaucoup de bien. Et nous essayons d'imaginer où vous êtes. Alors déjà, la Vanilleraie, c'est quoi? C'est un domaine de plantation?
Alors la Vanilleraie, c'est un des plus vieux domaines installé dans un des plus vieux domaines de La Réunion, qui s'appelle le domaine du Grand Azier, qui date de 1690. Et nous avons installé notre Vanilleraie en 2009 dans ce vieux domaine.
Avec une belle vue sur la mer?
Alors, on a une très belle vue sur la mer avec une grande allée de cocotiers de 400 mètres de longueur qui va justement vers la mer. Donc, on a une vue magnifique et un cadre magnifique puisque ce sont des anciennes bâtisses d'époque.
Alors, parlons avec vous, Bertrand Combe, de la vanille en général, déjà, c'est-à-dire de son histoire, de sa géographie, mais déjà peut-être de sa botanique. On dit que c'est une épice qui vient de la fleur du vanillier. La plante est comme une liane, mais on dit que c'est une orchidée. Précisez-nous les choses.
Alors, en fait, la vanille, fait partie de la famille des orchidées, mais c'est une des rares orchidées dont les fruits sont comestibles. Et on trouve à peu près 110 espèces de vanilliers dans le monde, mais le vanillier qui donne les vanilles que l'on connaît actuellement, c'est essentiellement le vanillier qui est originaire du Mexique. Mmh. Donc on l'appelle Vanilla planifolia, et ce sont les Aztèques qui, pour la première fois, ont utilisé cette plante. Donc en fait, ce qui est odorant, ce n'est pas la fleur, mais c'est le fruit issu de cette fleur, la gousse de vanille. Et au Mexique, eh bien, il y a une petite abeille qui féconde naturellement cette fleur, et donc les Aztèques récoltaient juste ce fruit et le faisaient sécher.
Et en fait, vous dites qu'il y a 110 espèces qui sont connues, hein, dans le monde, mais je crois qu'il y en a seulement 15 qui comportent des gousses aromatiques et seulement 3 qui sont utilisées par l'homme. Alors, vous avez cité cette Vanilla planifolia qui se trouvait au Mexique au XVIIe siècle. On l'a découverte à peu près à ce moment-là. Comment ça s'est passé?
En fait, ce sont les Espagnols qui la découvrent en 1519. C'est Cortés qui vont découvrir donc cette vanille et qui vont ensuite la ramener en Europe.
Et à quel moment a-t-elle été introduite à La Réunion?
Alors en fait, elle est introduite à La Réunion beaucoup plus tard. Les premières vanilles ont été introduites en 1819. Les premières vanilles sont issues de Guyane, donc c'est une autre espèce, Vanilla pompona.
Voilà, la deuxième. La vanille, il nous en manquera une troisième. Ouais.
Voilà, et la vraie vanille, entre guillemets, la vanille du Mexique est arrivée à La Réunion en 1822.
Par quel biais?
Alors, c'est l'ordonnateur marchand, c'est-à-dire l'équivalent du préfet de La Réunion de l'époque, qui est parti à Paris et qui a récupéré des plants au jardin des plantes de Paris, tout simplement. qui en avait reçu donc du jardin d'un jardin anglais. Donc voilà, ça s'est un peu réparti. C'était des collections hein, qui se répartissaient dans tous les jardins botaniques. Et donc on est parti chercher 600 boutures à Paris en 1822. On les a implantées à La Réunion.
Et il a fallu attendre, Bertrand Combe, je crois, 1841, pour qu'une méthode de pollinisation à l'origine de la mondialisation de la vanille soit découverte et développée.
Alors, tout à fait, parce qu'en fin de compte, la vanille, elle a une particularité au niveau de sa fleur, c'est que les organes sexuels mâles et femelles sont séparés par une petite languette stérile qu'on appelle le rostellum. Et la pollinisation, l'auto-pollinisation de la vanille ne peut pas se faire toute seule. Donc au Mexique, il y a une petite abeille qu'on appelle la mélipone qui fait ce travail, mais nous n'avons pas cette abeille à La Réunion. Donc les 20 premières années de culture de la vanille à La Réunion, la plante était stérile, elle ne donnait aucun fruit. Et il faut attendre 1841 pour qu'Edmond Albius, un petit esclave de 12 ans, trouve le procédé de pollinisation. Il va remplacer l'abeille en trouvant la manière de polliniser les fleurs une à une à la main pour obtenir des gousses.
Et donc c'est grâce à un petit esclave, comme vous dites, de 12 ans, Edmond Albius, que la production de vanille a grimpé. En 1898, La Réunion est quand même le premier pays producteur de vanille dans le monde. On parle de la vanille Bourbon à ce moment-là, c'est ça ?
Ah oui, c'est extraordinaire. On était premier pays producteur au monde. On atteint la production de 200 tonnes de vanille. Et ensuite, Madagascar va devenir protectorat français en 1898 et ce sont les Réunionnais qui vont aller installer la vanille à Madagascar et qui vont ensuite développer cette culture à Madagascar. Et là, comme les surfaces sont beaucoup plus grandes, la vanille malgache va prendre le leader mondial dès 1915 et ne va plus le lâcher puisque maintenant c'est 80% de la vanille mondiale qui est produite à Madagascar.
Oui, et La Réunion c'est 1%, c'est ça, du marché mondial aujourd'hui ?
C'est même pas 1%, doit être 0,5%, parce qu'on a des coûts de main d'œuvre évidemment qui n'ont rien à voir avec ceux de Madagascar. Alors l'autre point important également, c'est que c'est à La Réunion qu'a été découvert le procédé de transformation de cette gousse.
On vous écoute.
Voilà, parce que bon, on féconde la fleur, la gousse va mettre à peu près 9 mois pour se développer avant d'arriver à maturité.
Donc c'est long, quasiment un an entre la fécondation et la récolte.
Voilà, c'est un bébé, hein, c'est une maternité. Et donc, une fois qu'on a cette gousse, elle a un petit souci, c'est qu'elle s'ouvre à maturité. Il faut imaginer une gousse, c'est comme un haricot. Elle va se fendre à maturité, le but étant pour elle de libérer ses graines. Sauf que l'arôme est à l'intérieur. Donc le petit souci, c'est que si la gousse s'ouvre, ben tout l'arôme s'échappe. Et donc il va falloir trouver un procédé pour empêcher la gousse de se fendre. Et ce procédé était découvert à La Réunion en 1841 d'abord, et ensuite amélioré en 1846.
Île de découverte majeure, donc. C'est un produit fragile, on l'entend, Bertrand Combe. Le vanillier, en plus de ce que vous racontez là, le vanillier, je crois, a besoin d'ombre. Il ne fleurit qu'une journée, et une fleur ne donne qu'une gousse. Donc c'est vraiment très compliqué, ça veut dire qu'il faut passer tous les jours dans la plantation pour féconder une à une toutes les fleurs qui sont sorties le matin même, sinon si on attend le lendemain, c'est trop tard, les fleurs sont mortes, on aura perdu les gousses, et tout ça se fait à la main, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Alors, la fleur ne vit qu'une journée. Ce qui fait qu'on est obligé de passer tous les jours dans la plantation pour féconder les fleurs une à une. La fécondation débute en septembre et se termine en décembre, donc ça dure à peu près 3 mois. Et c'est-à-dire que pendant 3 mois, le producteur il n'a pas de week-end, puisque samedi, dimanche, il est aussi dans le champ en train de féconder. Et on féconde 300 gousses à l'heure, hein, donc c'est très rapide, c'est moins de 10 secondes par gousse, et une fleur ne donnera qu'une gousse. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis ensuite, comme je vous dis, il lui faut 9... Alors il faut d'abord 2 mois pour que la gousse atteigne sa taille définitive, qui est à peu près de 18 à 20 cm en moyenne, et il faudra donc 9 mois avant de la récolter.
Et je disais produit fragile en soi et précis, comme vous l'entendez, on l'entend là, mais c'est aussi un produit fragile parce que très sensible à la pression climatique. C'est pour ça, je crois, Bertrand Combe, qu'à La Réunion, la production a été divisée par 3 en 2024, précisément à cause du réchauffement climatique, c'est ça ?
Alors effectivement, on a un gros souci avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que Ce qui déclenche la floraison d'un vanillier, c'est la fraîcheur des températures en hiver. Donc il faut que la température descende en dessous de 17 degrés la nuit pendant au moins 5 jours pour déclencher la floraison.
En hiver, c'est juin, juillet, août à La Réunion,
ah oui.
C'est
alors
ça
nous, hein. C'est l'inverse. En hémisphère sud, donc c'est juin, juillet, août. Et il faut qu'on soit en période de sécheresse. Comme ça, la plante, elle souffre. Elle se dit, mon Dieu, je vais mourir et donc je vais fleurir pour perpétuer l'espèce. Et donc en 2023, on était 2 degrés au-dessus des normes saisonnières pendant tout l'hiver. Et au lieu d'avoir un hiver sec comme d'habitude, on a un hiver très pluvieux. Résultat, la vanille n'a pas fleuri ou quasiment pas. Et la production était même divisée par 4 par rapport à une année normale.
Quid de la production 2025 ?
Alors 2025, on a une meilleure production, on a eu une très bonne induction florale parce que là, l'hiver là a été frais et sec. Mais on a un deuxième problème, c'est que si l'induction florale était bonne, on a eu beaucoup de fleurs, mais on a eu un cyclone. Alors les cyclones, c'est quand même des vents à 200-220 km/h et ça fait quand même des dégâts sur les plantations et sur les gousses. Donc on a perdu une partie de cette bonne production suite au passage du cyclone.
Est-ce que nécessairement, Bertrand Côme, cette raréfaction de la vanille, en particulier à La Réunion, rend le produit encore plus cher ?
C'est sûr que lorsqu'il y a pénurie, et c'est l'offre et de la demande, hein, quand on a 4 fois moins de production, les prix flambent. Inévitablement, mais c'est aussi pour permettre aux producteurs de survivre et continuer à produire. Donc on est soumis à l'offre et la demande.
Oui, et puis vous disiez que Madagascar continue à produire 80% de la vanille mondiale, c'est un vrai concurrent pour vous, mais il y a un décalage entre le prix de vente élevé et le faible revenu des producteurs, en particulier des producteurs malgaches. Je crois que près de 60% des cultivateurs malgaches vivent sous le seuil de pauvreté.
Il faut savoir que Madagascar, c'est un des 3 pays les plus pauvres au monde. Le SMIC, en gros, c'est $1 par jour. Donc les gens sont vraiment très très pauvres. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le premier pays producteur de vanille au monde, mais les vanilles sont exportées de Madagascar à $40 le kilo. Et cette vanille-là arrive en Europe et vous la retrouvez, vous, en tant que consommateur, à 2000 euros le kilo. Mmh. Donc il y a quand même un gros écart entre les deux.
Et vous, à combien achetez-vous votre vanille ?
Alors nous, on achète
à nos
producteurs, on achète la vanille verte à 125 euros le kilo. Et il nous faut 5 kilos de vanille verte pour avoir 1 kilo de vanille préparée. Donc sans n'avoir rien fait dessus, on a déjà 600 euros de matière première. Et dessus, il faut compter tout le travail qu'il y a à faire pour la préparation de la vanille, le stockage, le conditionnement, etc. Ouais. Et on a des prix de vente qui sont aux alentours de 1800 à 2000 euros le kilo.
Alors que la demande mondiale est en hausse, hein, donc ça veut dire que trouver le juste prix, c'est de plus en plus compliqué pour vous, j'imagine.
Alors nous, notre seule planche de salut, c'est de commercialiser notre vanille directement sur l'île, aux touristes et aux visiteurs qui viennent nous rendre visite. Sur le marché international, nous ne sommes absolument pas compétitifs. Même les grands pâtissiers, ils vont acheter leur vanille au maximum à 400-500 euros le kilo. Certains vont monter, mais exceptionnellement, peut-être à 1000. Mais la survie de notre structure dépend essentiellement des personnes qui viennent nous visiter.
On entendait Bertrand Côme, le chef Olivier Rollinger, au début de cette émission, parler de la gamme des vanilles, comme on parlerait de la gamme de l'huile d'olive ou même de la gamme des vins. Vous aimez parler des terroirs pour la vanille. Ça veut dire qu'il y a une immense variété. On entendait déjà 110 espèces connues, mais aussi des terroirs pour la vanille ?
Alors tout à fait. En fait, la vanille, c'est un produit aromatique, tout comme le vin. Et au même titre qu'on a des crus ou des terroirs pour le vin, c'est la même chose pour la vanille. Et nous, on a fait une grande étude sur l'île de La Réunion et on s'est rendu compte que les vanilles qui sont produites dans le sud de l'île n'ont pas du tout le même arôme que les vanilles produites dans le nord. On aura des notes aromatiques, ça dépend de la nature du sol, des terroirs, de la pluviométrie. Dans le sud de l'île, il tombe 5 mètres d'eau par an. Dans le nord, seulement 2 mètres. Dans le sud, ce sont des roches volcaniques très récentes, donc le sol très pauvre. Dans le nord, le sol est beaucoup plus évolué, beaucoup plus riche. Et donc, ça va influer sur les notes aromatiques de la vanille.
Bon, bah, comme vous parlez des notes aromatiques, Bertrand Combe, je crois qu'il est temps de parler de la façon dont on mange la vanille, la façon dont on la cuisine, la façon dont on utilise une gousse de vanille. Il est midi et quart sur France Culture, vous écoutez Les Bonnes Choses, la vanille aujourd'hui.
Comment utiliser une gousse de vanille ? D'abord la choisir. La gousse de vanille doit être souple, surtout pas sèche, charnue, c'est-à-dire qu'on sent un peu d'épaisseur. Lorsque vous manipulez la gousse, il doit vous rester un aspect légèrement gras sur les doigts, avec quelques petits points noirs. Notre gousse, deux parties. La gousse en tant que telle et les petites graines à l'intérieur. On vient commencer avec le dos du couteau par aplatir notre gousse de vanille. Ensuite, avec la pointe du couteau, je viens ouvrir la gousse de vanille en deux. Et toujours avec le dos du couteau, je vais venir presser contre la planche pour récupérer les graines. On utilise les deux parties. Les graines pourront rester dans la préparation, par exemple pour une crème anglaise, pour une crème pâtissière, pour une crème mocha. Les gousses, on les travaillera par infusion. Vous pouvez très bien les utiliser plusieurs fois. On la trempe une première fois dans une crème pâtissière, par exemple, puis on la rincera légèrement et on viendra l'utiliser une nouvelle fois dans un sirop.
C'était un extrait du site L'Atelier des Chefs, mais je pense qu'on va détailler quand même un peu tout ça, Bertrand Combe, avec vous et avec un ancien chef pâtissier de la laiterie à Lambersart auprès d'Edouard Chouteau et qui a ouvert à l'automne 2025 sa propre pâtisserie Texture à Lille, Benjamin Connois. Bonjour Benjamin Connois.
Bonjour, bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe.
Merci beaucoup d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Juste d'abord une question Bertrand Combe, quand on veut la cuisiner, souvent on se tourne vers des arômes, vers des extraits. C'est quoi la différence entre arôme, souvent d'ailleurs arôme naturel de vanille, et la gousse elle-même ?
Alors, l'extrait de vanille est fait avec de la vanille, et c'est en général macéré dans de l'alcool en tant que solvant. L'arôme de vanille, bien souvent, il est fait avec autre chose que de la vanille. On peut faire des arômes vanille avec du clou de girofle. Parce que le clou de girofle contient une molécule qu'on appelle le génol qui peut être transformée en vanilline par l'action de certaines bactéries. Donc les arômes naturels, souvent, ne sont pas faits avec le produit de base, donc avec la vanille.
Et si on revient au produit de base, la vanille et donc la gousse, comme l'expliquait le chef dans l'Atelier des Chefs, on mange l'intérieur de la gousse, c'est-à-dire les graines, les petits points noirs, c'est ça ?
Alors l'arôme, la graine de vanille n'a aucun parfum. Le parfum se trouve dans les cellules qui entourent la graine. Donc quand on écrase les graines entre les doigts, c'est la substance qui va tacher vos doigts en jaune qui est odorante et non le point noir lui-même. Mais plus vous aurez de graines dans une gousse, plus il y aura de cellules aromatiques dans cette gousse. Donc les gousses avec beaucoup de graines sont plus aromatiques que les autres.
Mais dites-nous, quand on achète une gousse de vanille, on l'ouvre et on mange quelques graines seulement ? Ou on met quelques graines dans une recette pâtissière, par exemple ?
Alors normalement, on conseille une gousse par litre de préparation. Et on la fend en deux et on gratte les graines, puisque c'est autour de ces graines que se trouve l'arôme. Alors, la petite difficulté, c'est qu'il ne faut pas faire bouillir de la gousse de vanille. Normalement, on doit le porter à frémissement et encore, c'est entre 60 et 80 degrés. Si on fait bouillir une gousse de vanille, la gousse de vanille, le corps de la gousse contient des tanins qui vont se libérer, donner de l'amertume à votre préparation. Donc si on fait une crème anglaise, on va pas jeter le bâton et faire chauffer jusqu'à 85-90 ce bâton de vanille, parce que ça peut donner de l'amertume à votre préparation.
Ah bah je bois vos paroles et je suppose que Benjamin Connois, qui aime particulièrement la vanille, boit également vos paroles, mais doit connaître tout ce dont vous venez de parler, n'est-ce pas Benjamin Connois ? Vous la faites pas bouillir, vous, la gousse de vanille ?
Non, après il y a des préparations, comme le flan par exemple, on va être obligé de faire cuire la crème pâtissière, de la faire bouillir, mais il y a des techniques pour justement le faire infuser en amont, pour pas casser justement tous ces aromatiques. Mais c'est toujours hyper intéressant d'entendre des gens qui connaissent vraiment le produit à la base, et en fait on apprend tous les jours, même en pâtissant depuis des années, on apprend toujours plein de choses, quoi.
Vous, la vanille, c'est vraiment votre dessert favori. Le flan à la vanille, c'est d'ailleurs votre gâteau signature.
C'est ça. J'ai deux desserts signature à la carte et un dessert, un flan à la vanille, donc dessert assez classique, assez simple, que j'ai juste un petit peu twisté à ma façon avec une belle pâte feuilletée et je rajoute un crémeux à la vanille dessus, qui justement, lui, ne va pas être bouilli, pour garder vraiment 100% de l'aromatique de la vanille, et aussi d'avoir vraiment le côté des petits grains de vanille, qui effectivement n'apportent pas le goût, mais qui vont apporter un croquant dans le crémeux, qui est super intéressant pour la texture.
Où arrivez-vous à vous fournir, vous, Benjamin Connois, pour trouver votre vanille? Est-ce que vous travaillez avec des fournisseurs en particulier? À quel endroit?
Oui, alors en fait, je travaille avec une personne, avec un indépendant qui s'appelle Paul Galland, qui a sa société. Et en fait, bah, c'est la même chose que j'essaie de faire pour tous mes producteurs avec lesquels je travaille. En fait, j'adore les artisans, les indépendants. Lui, il va sur place, il parcourt le monde. Moi, je l'apprends à Madagascar, mais il en prend en Inde, en Afrique, à La Réunion, à Tahiti. Enfin, il y en a partout dans le monde. Et lui, c'est un ancien pâtissier qui est assez jeune et qui est vraiment fou de vanille et qui connaît le sujet pareil sur le bout des doigts. Et j'adore parler avec lui et échanger. Il m'apprend toujours plein de choses. Donc voilà. Moi, j'avais pas forcément envie de travailler avec des grossistes ou avec des gros fournisseurs. Je préfère vraiment des gens indépendants qui travaillent vraiment direct avec les producteurs.
Alors, vous citez Paul Galland. Paul Galland, il est au cœur d'un documentaire qui a été diffusé sur France Télé et qui est encore disponible sur France.tv pendant au moins 2-3 ans jusqu'en 2028. Ce documentaire s'intitule « On va déguster la vanille, l'or noir des saveurs ». On écoute un extrait, Paul Galland.
C'est vraiment exceptionnel de se retrouver ici. Toutes les vanilles que je recherche, c'est vraiment des vanilles extrêmement rares. Qui se trouve vraiment au fin fond de la jungle, dans des endroits vraiment très reculés. C'est ce qui fait toute cette rareté et toute cette typicité de ces vanilles sauvages qui sont juste extraordinaires. Ici, au Colombie, on a un terroir qui est très, très riche, avec des environnements très différents. Là, on est vraiment au paradis de la vanille. Buenos días, Christian.
Hola, Paul. Comment
ça va? Je suis très content de te voir, Christian.
Excelente. ¿Quieres conocer las vanillas?
Tu veux bien voir la vanille?
Allez. Là, on est sur la variété Trigonocarpa. Donc là, elle pousse vraiment sur l'arbre. Donc là, on voit la liane qui arrive vraiment tout en haut, mais a priori, il n'y a pas de fleurs, malheureusement. Ah, mais incroyable. Là, il y a une belle, belle gousse, ouais. Magnifique. Enfin, on l'a.
Regarde-moi ça.
Et la liane, ouais, effectivement, elle est là. Donc là, c'est vraiment une vanille sauvage.
Si tu veux l'accueillir, il va falloir grimper à l'arbre comme un singe.
Parfait. Moi, ça me va.
Si.
Ça me va.
Vamos. Allons-y.
Paul.
Regarde la gousse, Paul.
Yes. Magnifique. J'attends ça depuis des mois et même des années, on va dire. C'est vraiment une vanille qui est très rare, qui est totalement inconnue du grand public. Donc, c'est génial de pouvoir l'avoir entre les mains, surtout une vanille sauvage. Qui a été vraiment pollinisé naturellement, donc c'est vraiment super.
Voilà le chasseur de vanille, Paul Galland, avec lequel vous travaillez, Benjamin Connois. Pour revenir à l'utilisation de la vanille, parce qu'il y a des vanilles qu'on ne connaît pas, avec toutes ces espèces connues, mais il y a encore, comme quoi, des espèces inconnues et qu'on peut encore découvrir. Mais dans celles qu'on connaît, donc vous en utilisez beaucoup dans vos préparations pâtissières. Comment éviter, Benjamin Connois, que ce soit trop sucré, que ce soit écœurant?
L'avantage de la vanille, c'est justement, au-delà du goût que tout le monde connaît, qui est hyper additif, hyper réconfortant, c'est que ça va apporter un goût sucré, en tout cas une impression de sucre. Donc ça permet de beaucoup désucrer les desserts, parce que par exemple dans le flan vanille que je propose, je mets beaucoup de gousses de vanille, à peu près je pense une gousse de vanille par flan, à toutes les préparations différentes. Et en fait, je fais infuser du lait à la vanille, donc pour le coup pas bouilli, que je fais mariner pendant 24 heures. Que je vais ensuite mixer avec les gousses entières. Ça va permettre d'apporter un goût vraiment profond de vanille et un petit peu différent du cœur de vanille qu'on connaît, parce que la gousse va apporter un côté un peu plus acidulé, un peu plus fruité. Et en fait, juste ce lait infusé à la vanille, on a déjà l'impression qu'il est sucré. Donc il y a le lactose, mais il y a évidemment la vanilline, toutes les molécules aromatiques de la vanille qui vont vraiment apporter une impression de sucre en bouche qui est hyper agréable, et ça permet d'enlever du sucre blanc, et d'avoir quelque chose hyper bon, hyper réconfortant, mais à la fois pas écœurant.
À tel point qu'on peut aussi l'utiliser dans des desserts avec, par exemple, du butternut ou du topinambour, qui sont des légumes de saison. La vanille apporte toujours une forme de gourmandise et de rondeur, c'est ça?
C'est ça. La vanille, ça, en fait, on peut vraiment l'utiliser comme un assaisonnement. Justement, vous parlez de butternut. Moi, j'avais une tarte avec un crémeux butternut bio et un praliné à la graine de courge. Et je rajoutais une crème à la vanille dessus pour justement apporter ce côté un petit peu réconfortant, vraiment hyper gourmand. Et ça permettait aussi de rassurer les gens par rapport à un dessert au butternut qui pouvait peut-être un peu sortir de l'ordinaire. Et de faire une crème vanille, bah voilà, la vanille, ça rassure tout le monde. C'est très, très rare, les gens qui n'aiment pas la vanille. Donc, ça permet vraiment de mettre de la douceur à peu près sur tous les desserts, quoi.
Bertrand Combe, vous l'aimez comment, la vanille, vous? Crème brûlée?
Alors, à la Réunion, on la mange sur des plats salés également. Donc, du canard à la vanille, des poissons, des noix de Saint-Jacques, des émincés de poulet. Ça se marie également sur des plats salés.
Un peu partout, la vanille, on la met partout. On offre, grâce à Benjamin Connoy, deux recettes. Celle de la confiture de lait à la vanille et celle de la crème brûlée pour nos auditeurs et nos auditrices. Ça sera sur notre site. Un grand merci Benjamin Connoy, un grand merci Bertrand Combe de nous avoir parlé de la vanille en général et de votre vanille en particulier. Il est 12h26, c'est l'heure de retrouver le dialogue des cuisines de Maurice Acco. Maury qui a été inspiré par la vanille.
Oui, parce que c'est un ingrédient qui est aujourd'hui juste indispensable pour les amateurs de bonnes choses. À titre personnel, j'ai un fait pour la vanille givrée de La Réunion. C'est une gousse de vanille qui contient une concentration exceptionnelle de vanilline, la molécule responsable du goût de la vanille. Environ 3%, là où la moyenne des vanilles classiques est à 1,5%. Grâce à des conditions spécifiques, celle-ci traverse la peau de la gousse sous la forme de cristaux, d'où son nom de vanille givrée. Cela demande des conditions particulières et parfaitement maîtrisées, mais le goût est incomparable. Alors effectivement, cette vanille est un véritable produit d'exception, résultant d'un processus exigeant. Aussi, l'une des plus chères du marché. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je vous conseille surtout de ne pas utiliser d'extrait de vanille chimique ou des arômes, car leur goût imite plus ou moins bien celui de la vanille, mais n'équivaut jamais celui d'une vraie gousse. De toute façon, rien ne vaut une vanille de qualité. Vous serez gagnant, car pour atteindre une même puissance aromatique, il faut mettre 3 fois plus de vanille de mauvaise qualité. Moi, je l'aime particulièrement avec des crustacés. Pour les gros budgets, le homard et la langouste font des escortes de choix. Mais la recette fonctionne tout autant avec des crevettes ou des gambas. Commencez par couper vos gousses de vanille dans la longueur et grattez les grains à l'intérieur. Conservez séparément les gousses et les grains. Avec les gousses, pour plus de précision, pesez 100 g d'huile de tournesol pour une gousse de vanille, puis portez votre huile à 70 degrés environ et mixez pendant 5 minutes. Filtrez et conservez les résidus d'un côté et l'huile de l'autre. Ensuite, séparez les têtes et les corps de vos crustacés. Cuire les corps selon votre préférence, griller, pocher ou snacker. Avec les têtes, réalisez un jus de tête dans lequel vous ajouterez les résidus de votre huile de vanille pendant la cuisson, puis filtrez. Servez ensuite vos crustacés avec un écrasé de pommes de terre que vous aurez monté avec de l'huile de vanille à la place du beurre et ajoutez les grains de vanille et un peu de ciboulette ciselée. Puis servir avec votre sauce. Vous allez voir, c'est un véritable régal. Bon appétit et bon dimanche.
Merci Maurice Acco. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. À la technique, c'était Dalia. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.